Un vol de diamants par Georges Rouvray. Bonjour, monsieur Dumoulin, s'écria Garnier en entrant dans le bureau particulier du joaillier. Tiens, Robert, bonjour, mon enfant. Eh bien, quand donc te maries-tu ? Bientôt, je crois.
Samedi prochain. J'espère bien que vous viendrez avec Paul.
Je le regrette infiniment, mon ami, mais mon fils est en ce moment à Amsterdam pour un gros achat de pierres, et je viens même de recevoir un télégramme de lui me demandant de le rejoindre. Selon toute probabilité, nous ne serons pas de retour avant le milieu de la semaine prochaine, aussi ne pourrons nous assister à ton mariage ni l'un ni l'autre.
Comme c'est fâcheux, moi qui comptais au moins sur mon ami Paul à ma noce.
Ah, mon petit Robert, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans les affaires.
Et où comptes-tu faire ton voyage de noces ?
Eh bien, le voyage traditionnel en Italie, Venise, Rome, Florence, etc.
Ah, vous allez à Venise. J'ai un ami là-bas pour lequel je pourrais te donner une lettre de recommandation.
Je sais bien que des jeunes mariés se soucient peu de faire de nouvelles connaissances, mais le baron de Ruxtein mérite la peine qu'on lui rende visite. Il possède l'un des plus beaux palais de Venise, et sa collection de bijoux est l'une des plus importantes qui soit en Europe. C'est comme cela que j'ai fait sa connaissance. Nous sommes devenus fort bons amis depuis, et il ne manque jamais de venir me voir quand il est de passage à Paris.
Tiens, il faut même que je lui fasse parvenir une magnifique broche ancienne en diamant qu'il avait vue chez moi à son dernier voyage.
Il l'avait fort remarqué, et je suis bien heureux qu'il en fasse l'acquisition, car il y a longtemps que je l'ai en magasin et je pensais bien ne jamais m'en débarrasser.
Comment allez-vous la lui envoyer ? Pas par la poste, je suppose.
Que non pas. Je vais la lui faire porter par un de mes employés.
Cela va vous coûter cher.
300 ou 400 francs de plus sur un bijou du prix de cette broche ne sont pas faits pour effrayer M. de Ruxtein, crois-moi.
Voulez-vous me la confier ? Je serais trop heureux de vous rendre ce service, M. Dumoulin.
Non, mon ami, je ne voudrais pas abuser.
À dire vrai, le bijoutier était un peu fâché d'en avoir tant dit au jeune homme.
Robert Garnier était un fort honnête garçon, un ancien ami de son fils, incapable d'une indélicatesse, mais Dumoulin le savait léger de caractère, très uluberlu à l'ordinaire. Que serait-ce donc quand il allait être tout à son voyage de noces ? Cependant, il n'aurait pas voulu lui faire une peine quelconque.
Je vous assure, monsieur Dumoulin, que j'en prendrai grand soin.
Tu ne te doutes pas de l'ennui que cela te causerait.
Oh, je ne crains rien. Je mettrai l'écrin dans une poche intérieure de mon veston où le bijou sera en toute sécurité.
C'est une bien grande responsabilité que tu vas assumer là.
Je sais, monsieur Dumoulin. Au contraire, ce sera du nouveau pour moi de traverser une partie de l'Europe avec une pareille fortune dans ma poche. Je vous en prie, confiez-moi ce bijou.
Allons, Robert, je vois bien qu'il faut que je te cède, grand enfant. Je vais te le préparer dans un écrin et t'écrire une lettre d'introduction pour M. de Ruxtein. Tu viendras prendre le tout le jour de ton départ. Robert remercia Dumoulin et s'éloigna.
Le soir de ses noces,
le jeune homme passa au magasin de la rue de la Paix, où M. Dumoulin lui remit l'écrin et la lettre, en lui recommandant de bien y faire attention. Puis il lui souhaita bon voyage, ainsi qu'à sa jeune femme. Le bijoutier avait un bon sourire lorsqu'il rentra dans son bureau. « Brave garçon, pensait-il, il est loin de se douter qu'il est porteur d'une réplique en pierre fausse de la broche en vraie pierre, que je vais envoyer aujourd'hui même par Pignolet. Enfin, de Ruxtein comprendra bien, ma lettre lui explique tout. » À ce moment, Pignolet, l'employé de confiance du joaillier, entrait en costume de voyage dans le bureau de son patron.
« Ah, c'est vous, Pignolet, vous êtes prêt à partir ?»«
Oui, monsieur. Bon, vous allez prendre le rapide de ce soir, ainsi qu'il est convenu. Voici l'écrin, et je vous autorise, après que vous aurez remis le bijou, à profiter de votre séjour à Venise pour prendre 2 ou 3 jours de congé. Vous pourrez visiter la ville. Et maintenant, allez, vous n'avez que le temps de prendre votre train. »
Pignolet partit, sauta dans une voiture, et à la gare de Lyon, rejoignit sa femme.
« Là, lui dit-il. « Maintenant, nous voilà tranquilles. Le patron m'a donné quelques jours de congé de plus, et cela va nous permettre de voir tous deux un coin au moins de l'Italie. Hein ? Tu étais loin de te douter de cela, il y a 15 jours. »
Madame Pignolet était en effet bien loin de s'attendre à ce voyage d'agrément. Le même wagon-couloir qui transportait Julien Pignolet, employé de la maison Dumoulin, et sa femme Blanche, contenait également Robert Garnier et sa jeune épouse Antoinette, avec cette seule différence que les deux couples se trouvaient aux extrémités opposées du wagon. On avait dépassé Milan et le rapide traversait les grandes plaines de la Lombardie, filant dans la direction de Venise. Pignolet venait de s'assoupir, le voyage l'avait fatigué et sa femme ne voulait pas le réveiller afin qu'il pût se reposer, car elle comptait bien profiter des quelques jours de congé de son mari pour visiter Venise à fond. Elle s'était levée et marchait dans le couloir, contemplant les vallées du Saint-Gothard que la lune éclairait de ses rayons, quand elle surprit une conversation entre deux voyageurs, un jeune homme et une jeune femme, qui n'étaient autres que Robert et Antoinette. Celle-ci avait la tête appuyée sur la poitrine de son mari et se plaignait de quelque chose de dur qu'il avait dans la poche intérieure de son veston. Elle insista pour savoir ce que c'était, et Robert, à demi endormi, lui tendit l'écrin qu'elle ouvrit aussitôt. Antoinette poussa alors un cri de joie, pensant que le bijou était pour elle. Il fallut que son mari lui expliquât sa mission de confiance. Elle fit bien un peu la moue, fâchée que la broche ne fût pas pour elle, puis la lui rendit, et Robert, sommeillant encore, se départit de la circonspection qu'il avait promis à M. Dumoulin d'avoir. Il glissa négligemment l'écrin dans une des poches de côté de son veston. Cette petite scène avait eu un témoin, Madame Pignolet, qui avait vu la broche entre les mains de la jeune femme. Ciel, la broche qu'on avait confiée à Pignolet, d'adroit filou la lui avait dérobée. Que faire? Prévenir son mari? Les faire arrêter? Quel esclandre! Et un voyage manqué, car cela mettrait Pignolet sans dessus-dessous. Sa décision fut vite prise. Elle avait remarqué où le voyageur avait mis le bijou. En arrivant à destination, elle profiterait de la confusion générale à l'arrivée pour soustraire adroitement l'écrin de la poche du voleur. Les choses se passèrent bien ainsi, et Pignolet ne comprenait pas la hâte que sa femme mettait à quitter la gare. Le couple monta dans une gondole, tandis que les garniers montaient dans une autre. Puis le hasard voulut que les deux ménages descendissent dans le même hôtel. Après le dîner, Monsieur et Madame Pignolet décidèrent de faire une promenade en gondole sur les canaux, et quelques instants après, Monsieur et Madame Garnier en faisaient de même. Cette soirée était adorable. Le silence était seulement troublé par le clapotis de l'eau et le chant des bateliers. « Tiens, s'écria Madame Pignolet, regarde, Julien, comme tu es imprudent, si je n'avais pas été là tout de même !» Et elle lui tendit l'écrin en lui disant qu'il l'avait laissé sur la table de la chambre qu'ils occupaient à l'hôtel, car elle ne voulait pas lui confesser toute la vérité, de peur de l'effrayer. « Voilà qui est extraordinaire !» fit Pignolet en ouvrant l'écrin. « Tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette lettre, adressée à monsieur le baron de Ruckstein ? Le patron ne m'avait pas dit qu'il avait joint ce mot au bijou. » C'était la lettre d'introduction donnée par Dumoulin à Robert. « Bien curieux tout cela !» ajouta-t-il. La broche se trouvait placée sur la couverture qu'ils avaient tous deux sur les genoux, et comme la lune brillait à ce moment, un de ses rayons vint frapper le bijou dont les pierres jetèrent de beaux feux. Au même moment, une gondole les croisa, d'où partit un petit cri d'effroi auquel ni Pignolet ni sa femme ne prirent garde, trop occupés qu'ils étaient. « As-tu vu ? » fit Antoinette Garnier à son mari, car c'étaient les jeunes mariés qui occupaient la gondole qui venait de passer. « Vu quoi ? Mais le bijou, la broche qu'on t'a confiée. Eh bien, ces deux personnes dans la gondole que nous venons de croiser l'ont sur les genoux. »« Avec ça, j'ai l'écrin, là, dans ma poche. » Robert se fouilla, mais en vain. « Tu es sûr ? » demanda-t-il. « J'ai eu la broche entre mes mains. Je suis certaine que c'est celle-là. »« Et où trouver ces voleurs ? Qui sont-ils ? » « Oh, pour les retrouver, ce n'est pas bien difficile. Ils habitent le même hôtel que nous. Je les ai vus à table d'hôte. » Robert commanda au batelier de virer de bord et de suivre à certaine distance la gondole des Pignolets. Ceux-ci rentrèrent à leur hôtel et les Garniers en firent autant. Mais avant de remonter dans leur chambre, Robert s'informa auprès d'un des employés du nom des deux personnes qui les précédaient. « Monsieur et Madame Pignolet de Paris, chambre numéro 46. »« Deux chambres plus loin que la nôtre, » fit le jeune homme en rejoignant sa femme. Et comme il s'asseyait quelques instants dans le salon de lecture de l'hôtel, « Que penses-tu qu'il va mieux faire, Antoinette ? Les faire arrêter ? Ah, parlons-en, il faudra aller à la police, devant les tribunaux, un tas de formalités ennuyeuses, sans compter que M. Dumoulin t'en voudra de ta légèreté. Il faut bien la ravoir, cependant, cette broche. » Comme il disait ces mots, Les deux Pignolet pénétraient eux aussi dans le cabinet de lecture pour faire leur courrier, probablement, car ils avaient apporté leur propre buvard.
« Tiens, viens, allons-nous-en !» s'écria Antoinette. « Je ne sais pas si je saurai me contenir devant ces voleurs !»
Et tous deux remontèrent à leur chambre.
« Oh, une idée !» fit Antoinette subitement.
« Quoi ?
Attends-moi ici » ajouta-t-elle encore en sortant de la chambre.
Dans le corridor désert, elle s'approcha à pas de loup de la porte du 46 et entourna le bouton. Elle n'était pas fermée à clé. Aussitôt, elle entra dans la chambre et, comme il faisait très sombre, elle tourna le commutateur électrique. Là, sur le tapis, était placée une valise de cuir entrouverte. L'écrin devait se trouver là. Antoinette fouilla et faillit pousser un cri de joie quand elle le sentit enfin dans ses doigts. Elle s'en saisit, ferma le commutateur et sortit sans bruit en refermant avec soin derrière elle la porte du 46.
« Robert, Robert » fit-elle en sautant au cou de son mari. « Tiens, regarde !»«
Ah mon Dieu, comment t'y es-tu prise ?»
Il fallut qu'Antoinette lui expliquât ce qui venait de se passer.
« Ma bonne petite femme, c'est bien la broche. Tiens, ma lettre d'introduction n'y est pas. Les coquins ont dû s'en débarrasser en la jetant dans le canal. Ah, ma foi, tant pis. En tout cas, le bijou est toujours retrouvé, c'est le principal. »
Le lendemain, à quelques heures de distance, les deux broches étaient dûment remises au baron de Ruckstein, qui fut d'une amabilité charmante avec Pignolet, aussitôt qu'il lui eut remis la lettre de Dumoulin, insistant même pour qu'il le présentât à sa femme et qu'ils vinssent tous deux visiter sa collection de bijoux. Les Pignolet n'en revenaient pas d'un semblable accueil. Quant à Robert, il fut reçu plus froidement par le baron qui le prenait simplement pour un des employés du bijoutier. Dumoulin était dans son bureau quand deux lettres lui arrivèrent d'Italie contenant chacune un reçu de Ruckstein. Elles étaient l'une de Pignolet, l'autre de Robert Garnier. Mais le plus curieux était que la lettre de son employé contenait un reçu du baron pour le faux bijou, tandis que dans celle de Robert se trouvait un autre reçu de Ruckstein pour la broche en vrai diamant. Dumoulin était très perplexe. « Est-il possible, se disait-il, que j'ai pu me tromper ainsi ? J'aurais envoyé mon employé avec le faux bijou dans le seul but de lui faire faire un petit voyage d'agrément à Venise, tandis que j'aurais confié le vrai à cette tête de linotte de Robert ? Deviendrai-je un peu braque sur mes vieux jours ? Dumoulin, il faut soigner cela. » Ici se termine Un vol de diamants de Georges Rouvray, enregistré par Christiane Jehanne.